Bon, je vais partager ce qu'on essaie de faire chez moi. C'est un essai. Hein. J'essaie de lire une partie d'un psaume chaque matin avant que les enfants partent. Et je récite souvent on doit servir les autres dans l'amour, qui vient de Galates chapitre 5. Et juste après le déjeuner, on lit une petite partie d'un livre sur la Bible et on travaille le psaume 1 pour l'instant. Et on essaie de chanter quelque chose. Et la soirée, on parle autour de la table, on essaie de parler de la Bible, de ce que la Bible dit pour nous. Et souvent, c'est le thème d'être gentil. Et plein d'amour, parce qu'on n'est pas plein d'amour chez nous. Et donc, on parle beaucoup de l'amour et notre manque et l'exigence de Dieu. Ce sont des choses très simples, franchement, très très simples, qu'on fait. Et on n'est pas 100%, mais on essaie. Et vous, j'imagine qu'il y a des choses que vous faites. Et vous pouvez, peut-être plus tard, ensemble, nous pouvons parler. Oui, j'essaie ça et ça m'aide beaucoup pour encourager les uns les autres. D'accord? Bienvenue, Joseph. C'est bien passé? D'accord. C'est bien pour nous d'avoir Joseph encore avec nous. Il était en Inde. Et aussi, on a deux réponse de Dieu à nos prières, parce que Jesse et Cynthia ont reçu des nouvelles missions. Et merci Dieu pour comment il a répondu et continuons à prier pour la famille Neves. Et je sais qu'il y a d'autres aussi, mais voilà. On va commencer notre étude de quel psaume? Le psaume 2, d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le feuille de la dernière fois? Ouais, il va les distribuer. Un petit résumé. On a vu que les psaumes viennent des années... Bon. On a des psaumes qui viennent de Moïse, mais aussi des psaumes qui viennent d'après l'exil. Donc, ça fait presque 1000 ans. Et ce que ça nous indique, c'est que quelqu'un a fait les psaumes d'une manière, il a fait exprès comme on le trouve dans la Bible. Et les psaumes se divisent en 5 livres. Et les psaumes 1 et 2 sont l'introduction du psaume, du livre des psaumes. Et on a commencé le psaume 2 en notant ceux qui parlent. D'accord? Ça, c'est notre première étape. Souvent, on veut savoir qui parle. Et on a vu qu'il y a 4 orateurs. On a des rois de la terre. On a l'Éternel qui parle. On a le loin qui parle, et aussi on a le narrateur, le psalmiste qui parle et qui donne le conseil. Ce sont les 4 personnes qui parlent dans ce psaume, et on a vu des contrastes dans le psaume. Il y a un contraste entre verset 2, les rois de la terre. Et on s'est posé la question pourquoi il a ajouté la terre, parce que tous les rois sont sur la terre. Mais parce qu'il veut faire le contraste avec le Dieu qui siège dans les cieux. Et donc il montre la différence. Pour nous, les rois de la terre semblent être puissants, intouchables. Mais en fait, quand on met le contraste entre les rois de la terre et le Dieu des cieux, on voit, franchement, il n'y a pas un contraste entre les deux. Dieu est très haut, trop haut pour eux. Et ça, c'est ce que le psalmiste veut le faire. Mais aussi, au verset 12, on voit un contraste entre ceux qui sont heureux et ceux qui périssent. Ça, c'est le contraste au verset 12. Maintenant, on va parler des répétitions ou les parallélismes dans le psaume. Et ce qu'on... Pourquoi on fait ce genre de choses? Parce que c'est en comprenant toutes les parties du psaume qu'on comprend le message du psaume. D'accord? Et on va parler maintenant des parallélismes ou des répétitions dans le psaume. Et j'ai mis au verset 1, d'accord? Regardez le verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées ou ces méditations vaines parmi les peuples? Voilà. Et quels sont les parallélismes dans ce verset? Il y a un parallélisme entre quoi? C'est pas très difficile, en fait. Le verset 1. Tumulte. Et quelle est la chose qui est en parallèle? Vaines pensées, d'accord? Le tumulte et les méditations, parce que c'est le même mot qu'on trouve au chapitre, au psaume 1, le verset 2, qui la médite. C'est le même mot, et donc ils ont les méditations vaines. Et c'est intéressant ce mot tumulte, parce que souvent c'est utilisé pour la mer qui est bouleversée par un orage ou quelque chose comme ça. Mais aussi, vous pouvez noter Daniel 6:6. C'est notre foi qu'on trouve ce mot, et c'est intéressant, ça nous donne un peu l'idée de ce que ça signifie dans le monde d'âme. Hein? Daniel 6, le verset 6, et c'est après, les hommes veulent piéger Daniel, et donc après, il prie, et puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ça me donne une image. Hein. C'est comme les petits garçons qui courent vers la table quand on dit à table. Bon, ils sont partout, ils poussent parce que chacun veut être là avant tous les autres. Et on a cette image maintenant dans nos têtes. Quand il dit pourquoi ce tumulte, il parle des hommes, ils sont bien agités, irrités, ils parlent, ils crient contre Dieu. Et quel est leur tumulte? On a la répétition de cette idée, les vaines pensées, et ça ajoute un peu d'informations. Et les psaumes marchent comme ça. C'est pas vraiment la répétition sans sens, hein, sans signification. Quand ils répètent une idée, normalement, souvent, ils ajoutent pas seulement la même idée, mais un autre aspect de l'information, un peu plus d'information qui nous donne une compréhension plus profonde de ce qu'ils veulent dire. Donc, il faut prendre le temps pour lire les psaumes. Ça, c'est la poésie. D'accord. Mais il y a une autre répétition dans le verset 1, c'est quoi? Les nations et les peuples. C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile, mais il parle de tous ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. D'accord. Au verset 3, j'ai trouvé deux, mais j'ai mis un seul blanc. Mais quelles sont les répétitions ou les parallélismes? Brisons, et c'est quoi avec brisons? Délivrons-nous, d'accord? Et quoi d'autre? Lien et chaîne. Super, hein? C'est pas très compliqué, mais il faut observer, c'est tout. Mais ça nous donne un peu leur idée, n'est-ce pas? Ah, les chaînes, pas les chaînes, les chaînes et les liens qui nous limitent. Ah, nous n'aimons pas être limités, hein, par ce qui est extérieur à nous. Voilà le verset 5. Je saute le 4. Il y a la répétition. Celui qui siège dans les cieux. Et quel est le parallélisme avec cette partie du verset 4? Qui est celui qui siège dans les cieux? C'est le Seigneur, l'Adonai, hein, le Maître. Mais au verset 5, on a un parallélisme, c'est quoi? Oui, colère et fureur. Et il utilise les mots qui donnent des images mentaux, hein, parce que le premier mot, c'est « af », et ça parle de quand les narines, c'est large. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais quand on est vraiment, vraiment fâché, hein, c'est comme ça, et on sait, hein, oh. Fuir. Mais ça donne l'image. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça, mais leur visage se transforme quand ils sont en colère. Et ils utilisent ce genre de choses. Et un autre truc qui est très intéressant au verset 5, c'est qu'on a le chiasme. On a parlé de ça, mais c'est un peu comme un sandwich. Parce que dans l'hébreu, il dit, puis il leur parle dans sa colère, dans sa fureur, il les éprouvant. Et ça met l'accent sur sa colère. Le verset 5, il veut que nous connaissions que Dieu est en colère contre les rebelles. Voilà. Au verset 8, on a une autre répétition. Comment désolé? Oui, l'héritage et possession. Et bon, j'ai regroupé dans les grandes répétitions. On a le verset 8. Les nations pour héritage, ça veut dire quoi? Les extrémités de la terre pour possession. Et il est large un peu l'idée parce que on peut dire les nations, quelles nations? Ceux qui sont à côté, n'est-ce pas? Mais il dit non, non, non. J'ai des idées plus grandes que ça. Les extrémités de la terre. Vous voyez comment le parallélisme marche souvent dans les psaumes? Parfois, il donne le contraire. D'accord? Antithétique. Mais souvent, c'est un synonyme, mais pas la répétition de la même idée exacte. Il ajoute un peu. Hein, il ajoute des choses afin qu'on puisse élargir notre compréhension. Mais ça exige le temps. Hein. On peut pas lire les psaumes dans 2 minutes. Ça prend du temps. Voilà, ça c'est le verset 8. Le verset 9. Bon, on voit deux mots exacts. D'accord, briser, hein. Et ça, c'est une répétition, mais j'ai mis briser avec un verge de fer et briser comme la vase d'un potier. C'est pas exactement le parallélisme, un synonyme, mais il communique la même idée. C'est-à-dire, un verge de fer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se casse facilement? Non. En fait, avec un morceau de fer, on peut casser pratiquement tout. Hein. Et il a dit, bon, on a la cause, c'est le verge de fer, et on a la conséquence. Quelque chose qui est brisé, cassé comme un vase d'un potier. Ça, c'est très fragile et ça, C'est dommage, je pense. Le verset 10, il y a des répétitions aussi. Comment? Oui, conduisez-vous avec sagesse. Ça veut dire quoi? Ah, je dois réfléchir, je dois regarder dedans et trouver ma propre sagesse, n'est-ce pas? Afin que je puisse me conduire d'une manière juste. Non, parce qu'il ajoute quelque chose. Quoi? Recevez instruction. C'est une autre façon de dire votre sagesse vient de l'extérieur. Elle doit venir de Dieu et c'est à cause de ça qu'on commence avec le psaume 1. Parce que c'est le Torah de Dieu, la loi de Dieu, qui doit être notre guide. Et le verset 11, j'ai mis deux choses. Servez et réjouissez-vous. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Une partie de notre louange, bonjour et bienvenue, une partie de notre louange, c'est la joie. C'est de trouver la joie en Dieu. Dieu n'est pas loué quand on dit oui, je crois en Dieu parce que je dois. Je ne veux pas être puni, donc je crois. Bon, ça c'est comme, je suis avec ma femme, pas parce que je veux, mais parce que, bon, j'ai promis. Hein. Est-ce qu'elle reçoit rien, franchement. Mais quand un homme dit, une femme dit, moi, je suis avec ma femme parce que je l'aime. Elle est la personne la plus belle que je connais. Ah, voilà. Elle reçoit quelque chose. Elle est servie. Hein? Je trouve ça très, très, très beau pour nous aussi. Nous devons nous réjouir en Dieu. Voilà, mais il y a aussi une autre répétition dans ce verset. Crainte et tremblement. Est-ce qu'il y a des feuilles qui restent à la fin? Voilà. Parce qu'elle a besoin. Voilà. On est en train d'étudier le psaume 2. Une poésie dans la Bible qui introduit tout le livre des psaumes. Voilà. On a tous ces répétitions, ces parallélismes dans la Bible, dans le deuxième psaume, pour nous donner une idée de ce que le psalmiste veut communiquer. D'accord? Et il met l'accent sur beaucoup de choses, et on va essayer à la fin d'arriver à une bonne compréhension de ce qu'il veut nous dire. D'accord? Le quatrième point. Page 2, on va noter les aspects irréguliers maintenant du psaume 2. Voilà. Et je me suis trompé, on va commencer avec le verset 2, pas le verset 3. D'accord? Le verset 2, pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? D'accord? Et normalement, on a dans les psaumes et dans ce psaume, les groupes de deux. Est-ce que vous avez noté, hein? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, hein? Ces vaines pensées parmi les peuples, deux. D'accord? Le verset 3, brisons leurs liens, hein? Délivrons-nous de leurs chaînes, deux. Celui qui siège au verset 4 dans les cieux rit, et le Seigneur se moque d'eux, un et deux, des groupes de deux. Mais quand on lit le verset 2, on a combien de groupes? Combien de lignes? 3. Bon. Et ce qui est intéressant, quand on étudie les versions anciennes, les anciennes versions de la Bible dans les langues différentes, souvent ils ont essayé d'enlever le troisième ligne. Parce que on a cette bon rythme, hein? Deux, 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 deux. Et on ne veut pas que le psalmiste s'est trompé, donc on enlève la troisième ligne pour rendre les choses parallèles. Mais, oh bon, ça c'est pour moi, ça c'est pas une bonne façon d'agir. On doit chercher. Pourquoi cette différence? Selon vous, pourquoi il change un peu son rythme ici? Peut-être, qu'est-ce qu'on fait quand on change notre rythme? D'accord? Par exemple, si je prends une photo, d'accord? Et après, je développe le photo, je travaille la photo et j'ai décidé, donc, je veux que cette photo soit noire et blanc, sauf une fleur qui est rose. Bon, ça c'est différent. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand on regarde cette photo, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? La fleur, n'est-ce pas? Ce qui est en couleur, ce qui est différent. Voilà. Oui, je ne sais pas, ça c'est un mot que je ne connais pas, mais relief, ouais. J'ai confiance en Timothée. Ouais. Maintenant, imaginez qu'on se proche pour la première fois au psaume 2. Et on 2, 2, 2, 2, 3. Pourquoi? Il met l'accent sur qui? L'Éternel est son roi. Et ça nous indique tout de suite que ce psaume, même s'il commence avec les rois de la terre, les rois de la terre ne sont pas les personnages principaux. Les personnages principaux sont l'Éternel et son roi. Voilà, vous voyez comment la poésie marche un peu. Ah, il change de rythme. Pourquoi? Ah, ça nous donne une bonne compréhension de ce qu'il veut accomplir par cette poésie. Hein? Voilà. Ça, c'est le verset 2. Ça, c'est un aspect irrégulier. Et on trouve la même chose au verset 12. Quelqu'un peut lire le verset 12 pour nous? À haute voix.
Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui.
D'accord, on a 4 lignes ici. Ça, c'est un peu différent. Mais 3 de ces lignes parlent du même sujet. L'un de ces lignes est entièrement différent. Quelle est la ligne différente? Le dernier, hein? Qui parle de quoi? Heureux. Mais on vient de parler du fils qui s'irrite, de ceux qui périssent, et de la colère qui est prompte à s'enflammer. D'où vient cette idée d'être heureux? Ça, c'est un peu brusque. Mais je pense qu'il voulait retourner à cette idée. Hein? On peut être heureux dans ce monde. Mais notre bonheur, notre état d'être heureux est lié avec notre relation avec l'Éternel et son roi. Voilà. Vous voyez comment les différences soulignent peut-être non pas peut-être, il souligne les idées principales. C'est-à-dire, il parle de l'Éternel, il parle de son oint. Mais il parle aussi, ils ne veulent pas rester surtout sur leur colère. Il veut terminer le psaume avec cette idée. Tout ce que j'écris afin que vous puissiez vous repentir. Voilà, ça c'est l'idée. Ça c'est l'idée. Il ne voulait pas que les rois de la terre restent en rébellion contre l'Éternel. C'est un appel. C'est un appel à la repentance. Voilà. Vous avez des questions? C'est simple, hein? Vous pouvez le faire à la maison.
Donc, est-ce que tu disais qu'avec Heureux, il revient au thème du psaume 1?
Oui, je pense qu'ils ont. Je pense que ça s'est exprès, oui. Le psaume 1, ils ont commencé avec cette idée, heureux l'homme. Et ils ont terminé avec quelle idée, le psaume 2? Heureux. Et ça crée des serres livres. Hein? Et donc, entre ces deux serres livres, on a cette idée. Dieu veut qu'on soit heureux. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et ça, c'est entièrement différent que ce que le monde pense, mais Dieu veut qu'on soit heureux. Et donc, ça, c'est pourquoi que j'ai mis ce titre pour notre étude. Heureux, mais aussi saint. Les deux vont ensemble. Heureux et saint, sous le règne de l'Éternel. Et le règne de l'Éternel est surtout le psaume 2, mais on va y arriver, j'espère. D'autres questions, d'autres commentaires? D'accord, on continue, hein, avec le point 5. Bon, j'ai pas mis toutes les images. Donc, si on s'arrête avec chaque image, chaque parallélisme, on va passer 2 mois dans le psaume 2. Et quelqu'un m'a dit que ça c'est trop long. Donc on va continuer, on va avancer. Mais au verset 1, il y a une image dont on a déjà parlé. C'est quelle est l'image? C'est le tumulte, hein? Mais ça c'est vrai, n'est-ce pas? Ça c'est une bonne image pour ce qui arrive contre Dieu. Même dans nos esprits parfois. Je ne sais pas si vous avez jamais eu un tumulte dans votre cœur contre Dieu, parce que en fait, si on est honnête, on sait ce qu'il faut faire. On veut pas faire. On veut pas le faire. Et il y a ce tumulte et des vaines pensées contre Dieu. Mais dans ceux qui sont vraiment ses enfants, on arrive par l'aide de Saint-Esprit à la fin de dire oui, oui Père, je vais le faire parce que je t'aime. Mais parfois on a le tumulte. J'ai mis aussi au verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et bon, dans ma façon de penser, qui n'est pas la meilleure, mais c'est la mienne, je vis la montagne comme une image. Pourquoi ils ont choisi la montagne pour leur chef-lieu? Qu'en pensez-vous? Comment? C'est stable. Et Jérusalem, c'est construit au pied de la montagne ou sur la hauteur de la montagne? Hauteur, d'accord. Est-ce que ça communique quelque chose? C'est au-dessous. On a parlé, hein? Quand on entre devant un tribunal, les juges sont où? Ils sont comme ça, afin que nous devrions dire oui. Et ça communique tout de suite l'autorité. N'est-ce pas? Ou quand peut-être on peut imaginer hein, qu'on fait partie d'une armée qui vient pour attaquer Jérusalem. Et on arrive au pied de la montagne et on regarde et on réfléchit et on dit, oh là là, ça sera difficile. Parce que ça communique aussi la puissance. Vous ne pouvez pas nous toucher, franchement. Et Dieu, quand il dit main, montagne, Sion, oui, c'est physiquement, c'est réellement une montagne. Mais ça communique aussi la puissance, le pouvoir, une position très, très, très stable et pas facile à attaquer. Et j'ai mis aussi le verset 9. Notre image, on a parlé du verset 5, on a l'image de la colère, mais il utilise les mots qui communiquent les narines, qui s'élargent. Mais on va sauter ça. Au verset 9, quelle est l'image? Destruction. Tu briseras comme le vase d'un potier. D'accord. Quand on pense, si on fait la comparaison entre le fer et un vase d'un potier, d'accord, quel est le plus fort, plus dur? Le fer, n'est-ce pas? Et si on applique le fer à un vase d'un potier, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il faut frapper 100 fois pour la briser? Une seule fois. Un peu. Et on peut dire, peut-être on peut faire même pas exprès. Hein, si on est comme Mathieu dans la maison. Hein. Il veut toujours nous aider, mais souvent c'est pas vraiment une aide. Mais s'il a, pas, Mathieu a 5 ans, donc s'il y avait un bâton de fer, quelque chose. Hein. Il marche comme ça, s'il pouvait. Hein. Et il tape. Psh, tape, psh, tape, psh. C'est pas difficile. Et quand Dieu dit, tu les briseras comme le vase d'un potier, on doit avoir une image dans notre tête. On a une hyper-puissance et une hyper-faiblesse. Et quand les deux arrivent ensemble, quelque chose de terrible va venir. Ça, c'est l'image pour nous. D'accord. Le verset, pas le verset 5, maintenant on a, oh mince, le sixième point, je me suis trompé. Le sixième point, c'est deviner le thème du psaume. Est-ce qu'on peut-on travailler ensemble maintenant pour trouver le thème du psaume 2, d'accord? On va commencer avec les parties différentes, d'accord? On a plusieurs parties qu'il faut rassembler dans un thème qui nous donne un peu l'idée du psaume 2, voilà. Quels sont les thèmes, les parties différentes qu'on trouve? Ok, on a cette idée des, je pense qu'elle a trouvé deux thèmes, deux aspects, d'accord? On a les rois, et qu'est-ce que les rois font? Ils règnent, d'accord? Mais aussi, on a deux groupes de rois qui sont en conflit, hein? D'accord, on a des rois qui règnent, et on a un conflit entre ces deux rois. D'accord? On est tous d'accord? Ouais, d'accord. Ça, c'est super. Mais il y a aussi une autre idée qui se trouve dans... Bon, d'autres idées qui se trouvent dans ce psaume. de loi. Roi, le roi, d'accord. Le roi de l'Éternel. Oui, ça, je pense qu'on peut lier peut-être cette idée de l'Éternel et son roi, ensemble, qui règne. Et on a en opposition des rois de la terre.
Il y a des gagnants et des perdants.
Ah oui, ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et est-ce qu'il y a une question? Qui va gagner? Est-ce qu'on est en suspense? On ne sait pas qui va gagner. Non, c'est clair, n'est-ce pas? Qui va gagner? L'Éternel et son roi. Ouais. D'accord, on a ces idées. On a des rois, l'Éternel et son roi, contre les rois de la terre. On a l'opposition entre les deux. On a cette idée qu'il y aura un gagnant et quelqu'un qui va perdre, et c'est pas un choc à la fin qui va gagner. On sait que l'Éternel, il va gagner facilement. Comme il a un bâton de fer et ils sont les vases d'un potier. Mais aussi, on a un autre aspect qu'il faut ajouter. Le peuple qui sont avec les rois de la terre. Et ensuite, comment il termine le psaume? Oui, avec un conseil, n'est-ce pas? Il dit quoi? Baisez le Fils maintenant, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. J'ai dit un appel à la repentance, à la soumission, on peut dire. On a ces idées, on a deux groupes, l'Éternel et son roi, et les rois de la terre avec les peuples de la terre. Et ils sont en conflit. En fait, on peut dire ils sont en rébellion. Parce que l'Éternel et son roi, ils ont le droit de régner sur eux. Et on a une conséquence. Si vous continuez dans votre rébellion, il y aura des conséquences terribles. La destruction totale. Mais il y a aussi un appel. Il dit, baisez le Fils. Montrez votre soumission et votre amour au Fils. Et bon, on a ces parties différentes qui, pour moi, qui nous donnent ce thème. Hein. Dieu règne sur tout. Repentez-vous. Ça, c'est l'idée, les idées principales. Et voilà, il y a deux réponses. On doit terminer. J'ai mis pour la A, ça c'est maintenant, c'est le 7. J'ai 2, 5 et 2, 6. C'est le 7. Notez les deux réponses possibles. J'ai mis la soumission qui porte le bonheur. Et la rébellion qui porte la mort. Et quelque chose qui est intéressant, le mot le Fils au verset 12, ce n'est pas un mot en hébreu. C'est en fait un mot araméen, et ça convient bien parce qu'il parle aux nations qui ne sont pas juifs. C'est un message pour les nations. Et ça, c'est une autre indication que même dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, Dieu avait les personnes comme nous à son cœur. L'Évangile est pour les non-juifs comme nous, ou comme moi. Et ça m'encourage beaucoup aussi. Et le type de psaume, normalement, on dit que c'est un psaume royal. Et quelle est la différence entre un psaume de couronnement et un psaume royal? Le psaume royal, ça met plus d'accent sur le Messie. Et quand on parle de le roi de l'Éternel, on parle du Messie. Et on voit dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 1 et en Actes chapitre 13, que Dieu, bon, les hommes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, appliquent une partie de ces versets à Jésus, le Christ. Et donc, c'est un psaume royal. Voilà, on a 4 minutes pour se préparer pour notre culte ensemble, notre adoration de l'Éternel et son roi. J'espère que maintenant nos cœurs sont bien préparés pour louer notre Dieu. Que Dieu bénisse.